de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komanicki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté, sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui, et demain les écouter, alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue 7 fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là, c'est sur le bout de ma langue. En 1990, l'écrivain américain Paul Auster publie dans le New York Times un court texte, Le conte de Noël d'Auguy Vren. En 1995, le réalisateur Wayne Wang lui propose ensuite de l'adapter au cinéma sous le titre Smoke. Paul Auster sera finalement le scénariste du film et le tournage de Smoke se prolongera dans celui de Brooklyn Boogie. Un bureau de tabac est au centre de cette fiction où se croisent les personnages les plus pittoresques, tous empruntés à la vie quotidienne de ce que Paul Auster appelle la Grande République populaire de Brooklyn. Un univers urbain où se croisent toutes les races et toutes les conditions, non sans drame ni tension, mais dans un climat où c'est finalement l'art de vivre ensemble qui l'emporte.
Salut Auguy.
2, c'est ça ?
Non, je ne prends qu'une boîte.
Mais c'est 2 d'habitude.
Je sais. J'essaie d'arrêter. Quelqu'un se fait du souci pour ma santé.
Ah ! Et comment ça va le travail, maestro ?
Ça va. Enfin, ça allait jusqu'à hier où j'ai reçu un coup de fil d'un type du New York Times. Il me demande de lui écrire un conte de Noël. Ils veulent publier ça justement à Noël.
Tu devrais être fier comme un pou. C'est la grande classe.
Oui, c'est super. Seulement, je dois remettre mon histoire dans 4 jours. J'ai pas une seule idée en tête. Tu ne connaîtrais pas un conte de Noël?
Si, moi, j'en connais, bien sûr. Moi, j'en connais plein.
Tu en connais des bons?
Des bons? Bien sûr. Tu veux rire? Écoute-moi, tu m'invites à déjeuner, je te raconte le plus beau conte de Noël que t'aies jamais entendu, ça te va? Et je te garantis que tout est vrai en plus.
Je tiens ce récit d'Auguy Vren. Comme il n'y fait pas très bonne figure, en tout cas pas aussi bonne qu'il le souhaiterait, il m'a demandé de ne pas citer son vrai nom. À part ça, toute l'histoire du portefeuille perdu, de la vieille aveugle et du repas de Noël est décrite ici telle qu'il me l'a racontée. Il y a maintenant près de 11 ans que nous nous connaissons, Auguy Vren et moi. Il travaille derrière le comptoir d'un marchand de cigares dans Court Street, au cœur de Brooklyn. Et comme cette boutique est la seule où l'on peut trouver les petits cigares hollandais que j'aime fumer, j'y vais assez souvent. Pendant longtemps, je n'ai guère prêté attention à Auguy Vren. Il était ce petit homme étrange vêtu d'un sweatshirt à capuchon qui me vendait des cigares et des revues. Ce personnage malicieux et blagueur qui avait toujours quelque chose de comique à dire sur le temps, les Mets ou les politiciens de Washington, et ça n'allait pas plus loin. Et puis un jour, voici plusieurs années, en feuilletant une revue dans sa boutique, il est tombé sur un article consacré à l'un de mes livres. Il a su qu'il s'agissait de moi à cause de la photographie qui accompagnait l'article et après ça, nos relations se sont modifiées. J'avais cessé d'être pour Auguy n'importe quel client, j'étais devenue quelqu'un de spécial. La plupart des gens se contrefichent des livres et des écrivains, mais il se trouve qu'Auguy se tenait pour un artiste. Et maintenant qu'il avait percé le secret de mon identité, il m'adoptait comme un allié, un confident, un frère d'armes. À dire vrai, je m'en sentais plutôt embarrassée. Enfin, c'était presque inévitable. est arrivé le moment où il m'a demandé si je désirais voir ses photographies. Compte tenu de son enthousiasme et de ma bonne volonté, il m'a paru impossible de refuser. Dieu sait à quoi je m'attendais. À tout le moins, pas à ce qu'Ogi me montra le lendemain. Dans une petite pièce dépourvue de fenêtres à l'arrière du magasin, il ouvrit un carton et en sortit 12 albums photographiques noirs, identiques. Il contenait toute l'œuvre de sa vie, m'expliqua-t-il, et il ne lui fallut pas plus de 5 minutes par jour pour l'accomplir. Chaque matin, depuis 12 ans, il se plantait au coin d'Atlantic Avenue et de Clinton Street, à cette heure précise, et prenait un seul instantané en couleur de la même vue précisément. L'entreprise comportait maintenant plus de 4000 photographies. Chaque album représentait une année différente et toutes les photographies étaient rangées par ordre chronologique du 1er janvier au 31 décembre, leur date notée avec soin au bas de chacune d'elles. Je me mis à feuilleter les albums et à examiner le travail d'Ogi sans trop savoir quoi penser. Ma première impression fut qu'il s'agissait de la chose la plus bizarre, la plus ahurissante que j'avais jamais vue. Toutes les photos étaient pareilles. L'entreprise entière consistait en une rafale étourdissante de répétitions, la même rue et les mêmes immeubles encore et toujours, un délire obstiné d'images redondantes. Ne trouvant rien à dire à Ogi, je continuais à tourner les pages avec des hochements de tête, de feinte appréciation. Ogi, lui, ne manifestait aucune émotion et m'observait avec un large sourire, mais après m'avoir laissé faire pendant quelques minutes, il m'interrompit soudain en disant « Tu vas trop vite. Si tu ralentis pas, tu comprendras jamais. » Il avait raison, bien entendu. Si on prend pas le temps de regarder, on n'arrive jamais à rien voir. Je pris un autre album et m'obligeai à le parcourir de façon plus systématique. Je portais plus d'attention aux détails, notais les variations du temps, guettais les angles changeants de la lumière au fil des saisons. Finalement, je devins capable de discerner de subtiles différences dans le flot de la circulation, d'anticiper le rythme des différents jours, l'agitation des matins de travail, le calme relatif des fins de semaine, le contraste entre les samedis et les dimanches. Alors, peu à peu, je commençais à reconnaître les visages des gens qui figuraient à l'arrière-plan, les passants sur le chemin du travail, les mêmes aux mêmes endroits chaque matin en train de vivre un instant de leur vie dans le champ de l'objectif d'Ogi. Dès lors qu'ils me devenaient familiers, je me mis à étudier leurs attitudes, leur façon de se tenir d'un matin à l'autre. J'essayais de découvrir leur humeur d'après ces indications superficielles comme si j'avais pu leur imaginer des histoires, comme si j'avais pu pénétrer les drames invisibles dissimulés dans leur corps. Je passais à un autre album. Je ne ressentais plus d'ennui ni la perplexité du début. Ogi photographiait le temps, je m'en rendis compte, le temps naturel et le temps humain à la fois. Et il accomplissait cela en se posant dans un coin minuscule de l'univers que sa volonté avait fait sien, en montant la garde devant l'espace qu'il s'était choisi. Me voyant absorbé dans son œuvre, Ogi continuait de sourire avec satisfaction, puis, presque comme s'il avait pu lire mes pensées, il se mit à réciter un vers de Shakespeare. « Demain, et demain, et demain, » murmura-t-il à voix basse. Le temps s'avance à pas menus. Je compris alors qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Ça se passait il y a plus de 2000 images. Depuis ce jour-là, Ogi et moi avons fréquemment discuté de son travail, mais c'est seulement la semaine dernière que j'ai appris comment il est d'abord entré en possession de son appareil, comment il s'est mis à prendre ses photographies. Au début de cette semaine-là, on m'appela du New York Times pour me demander si j'accepterais d'écrire une nouvelle à paraître dans le journal du matin de Noël. Mon premier réflexe fut de refuser, mais mon interlocuteur déploya un tel charme et tant d'insistance qu'à la fin de la conversation, je lui répondis que j'essaierais. À peine avais-je raccroché le téléphone que je sombrais néanmoins dans une panique profonde. « Qu'est-ce que je connais à Noël ?» me demandai-je. que connaissais-je à la rédaction de nouvelles sur commande. Je passais plusieurs jours dans le désespoir, bataillant avec les fantômes de Dickens, Doe Henry et autres maîtres de l'esprit de saison. Les seuls mots « contes de Noël » évoquaient pour moi des associations désagréables, des débordements hypocrites de bouillie et de mélasse. Dans le meilleur des cas, les contes de Noël n'étaient que rêves de désirs comblés, contes de fées pour adultes. Et pour rien au monde, je ne m'autoriserai à écrire des choses pareilles. Pourtant, comment pourrait-on envisager de raconter une histoire de Noël non sentimentale? Il y avait là une contradiction dans les termes, une impossibilité, une énigme totale. Autant essayer d'imaginer un cheval de course sans jambes ou un moineau sans ailes. J'arriverai à rien. Le jeudi, je sortis faire une longue promenade avec l'espoir que le grand air m'éclaircirait les idées. Juste après-midi, je m'arrêtai chez le marchand de cigares pour me réapprovisionner et j'y trouvai Augie, comme toujours, debout derrière le comptoir. Il me demanda comment j'allais et sans en avoir vraiment eu l'intention, je me mis à lui confier tous mes ennuis. « Un conte de Noël, fit-il, lorsque j'eus terminé, c'est tout ? Si tu m'offres un déjeuner, mon ami, je te raconterai le plus beau conte de Noël que t'aies jamais entendu et je te garantis que cette histoire est vraie, mot pour mot. » Nous nous rendîmes au coin de la rue chez Jack. Une charcuterie bondée et bruyante où on sert de bons sandwichs corned beef et dont les murs sont garnis de photographies d'anciennes équipes des Dodgers. Lorsque nous eûmes trouvé une table au fond de la salle et commandé notre pain, Augie se lança dans son histoire. « C'était pendant l'été 1972, commença-t-il. Un matin, un gosse est entré dans le magasin et s'est mis à faucher des choses. Il devait avoir 19 ou 20 ans, je crois. » Je crois que de ma vie, j'ai jamais vu un voleur plus pathétique. Planté devant le rayon des livres de poche, le long du mur de fond, il bourrait de livres son imperméable. Il y avait beaucoup de monde autour du comptoir à ce moment-là et je ne l'ai pas remarqué tout de suite, mais lorsque je me suis aperçue de ce qu'il était en train de faire, j'ai commencé à crier et il a décampé comme un lapin et quand j'ai enfin réussi à contourner le comptoir et à sortir, il filait déjà le long d'Atlantic Avenue et je l'ai poursuivi sur la distance d'un demi-bloc puis j'ai abandonné. Il avait laissé tomber quelque chose, au passage. Et comme j'avais plus envie de courir, je me suis penchée pour voir de quoi il s'agissait. Bah, c'était son portefeuille. Il contenait pas d'argent, mais son permis de conduire, ainsi que 3 ou 4 photos. Je suppose que j'aurais dû appeler les flics et le faire arrêter. J'avais son nom, son adresse sur le permis, mais il m'inspirait une vague pitié. C'était un petit vaurien minable. Et après un coup d'œil aux photographies trouvées dans son portefeuille, j'arrivais plus à éprouver aucune colère à son égard. Robert Godwin, c'est ainsi qu'il s'appelait sur l'une des images. Je me souviens qu'on le voyait debout avec un bras autour de sa mère ou de sa grand-mère. Sur une autre, il était aussi âgé de 9 ans ou 10 ans, vêtu d'un uniforme de baseball, le visage éclairé d'un large sourire. Pff, j'ai pas eu le cœur. Il doit être drogué maintenant, je me suis dit. Un pauvre gamin de Brooklyn à qui la vie n'offrait pas grand-chose et de toute façon... Qui se souciait de quelques livres de poche merdiques? Alors j'ai gardé le portefeuille. De temps à autre, l'idée me venait de lui renvoyer, mais je tergiversais sans cesse et je n'exécutais jamais. Puis Noël est arrivé. Je restais en panne sans rien à faire. D'habitude, le patron m'invite à passer la journée chez lui, mais cette année-là, il était parti avec sa famille voir des parents en Floride. Me voilà donc seule chez moi, ce matin-là, en train de m'attendrir un peu sur mon sort. J'aperçois le portefeuille de Robert Godwin sur une étagère de la cuisine. Je me dis « Eh merde, pourquoi pas faire quelque chose de chouette pour une fois ?» Et j'enfile mon manteau et je m'en vais restituer ce portefeuille en main propre.
Thank you.
C'était une adresse du côté de Boreham Hill, quelque part, dans les grands ensembles. Il faisait glacial ce jour-là et je me rappelle m'être perdue plusieurs fois en essayant de trouver le bon immeuble. Tout est pareil dans ces ensembles. Et on repasse tout le temps au même endroit en croyant qu'on est ailleurs. En tout cas, je finis par arriver à l'appartement que je cherchais. Je sonne. Rien ne se passe. Bon, je me dis qu'il n'y a personne, mais j'essaie encore un coup pour plus de sûreté. J'attends un peu et juste quand je vais renoncer, j'entends que quelqu'un s'approche de la porte en traînant les pieds. Une voix de vieille femme demande « Qui est là ?» Et je réponds que je cherche Robert Godwin. « C'est toi, Robert ?» fait la vieille femme. Et après avoir déverrouillé au moins 15 verrous, elle m'ouvre la porte. Elle devait avoir dans les 80 ou même 90 ans et la première chose qui m'a frappée, c'est qu'elle était aveugle. « Ah, je savais que tu viendrais, Robert. Je savais que t'oublierais pas ta mémé et tel le jour de Noël. » Et alors elle ouvre les bras comme pour m'embrasser. J'avais pas beaucoup le temps de réfléchir, tu comprends, fallait que je dise quelque chose tout de suite. Et avant de savoir ce qui m'arrivait, j'entends ces mots me sortir de la bouche. « Oui, mémé et elle, je dis, je suis venue te voir pour Noël. » Me demande pas pourquoi j'ai fait ça, j'en ai pas la moindre idée. J'avais sans doute pas envie de la décevoir ou quelque chose comme ça, enfin j'en sais rien, c'est juste sorti, puis c'est comme ça. Puis cette vieille femme s'est tout à coup mise à me serrer dans les bras, là, devant la porte, et moi je la serrais dans mes bras. Je lui ai pas exactement dit que j'étais son petit-fils, mais si je ne lui ai pas dit, du moins, c'est resté implicite. Pourtant, j'essayais pas de la tromper, hein. C'était comme un jeu qu'on aurait tous les deux décidé de jouer, sans avoir à en discuter les règles. Je veux dire que cette femme savait que j'étais pas son petit-fils Robert. Elle était âgée et un peu gaga, mais pas au point de pas remarquer la différence entre un étranger et sa propre famille. Elle était heureuse de faire semblant, et puisque j'avais de toute façon rien de mieux à faire, bah j'ai été heureux de lui emboîter le pas. Et on est resté chez elle. On a passé la journée ensemble. Cet appartement était une vraie poubelle, soit dit en passant. Mais qu'attendre d'autre d'une vieille aveugle qui s'occupe elle-même de son ménage ? Chaque fois qu'elle m'interrogeait, qu'elle me demandait comment j'allais, ben je lui mentais. Je lui ai raconté que j'avais trouvé un bon boulot chez un marchand de cigares. Je lui ai raconté que j'étais sur le point de me marier. Je lui ai raconté 100 belles histoires et elle faisait comme si elle croyait chaque mot. « C'est bien ça, Robert !» me disait-elle en souriant et en hochant la tête. « J'ai toujours su que les choses s'arrangeraient pour toi. » Après quelque temps, j'ai commencé à avoir faim et il semblait pas y avoir grand-chose à manger dans la maison. Je suis donc allée acheter des masses de trucs dans un magasin des environs. Un poulet rôti, un potage aux légumes, un pot de salade de pommes de terre, un gâteau au chocolat, enfin toutes sortes de choses. Estelle avait quelques bouteilles de vin cachées dans sa chambre et nous nous sommes donc débrouillés à nous deux pour nous offrir un repas de Noël très convenable. Le vin nous a rendus tous les deux un peu pompettes, ça je m'en souviens. Puis après le repas, nous sommes allés nous installer dans le salon où les fauteuils étaient plus confortables. J'ai eu besoin de pisser. Alors je me suis excusée, puis je me suis rendue dans la salle de bain tout au bout du couloir. C'est là que l'affaire se corse. Mon numéro en tant que petit-fils d'Estelle était déjà assez dingue, mais ce que j'ai fait après relève de la folie complète. Et je me le suis jamais vraiment pardonné. En entrant dans la salle de bain, j'aperçois contre le mur près de la douche une pile de 6 ou 7 appareils de photographie flambant neufs, encore dans leur boîte. La marchandise de première qualité, je me dis, ça c'est l'œuvre du vrai Robert. Une planque pour le butin. Le butin d'un de ses derniers coups. J'ai jamais pris une photo de ma vie. Et j'ai certainement jamais rien volé. Mais dès l'instant où je vois ces appareils entassés dans la salle de bain, je décide que j'en veux un pour moi, juste comme ça. Et sans un instant d'hésitation, je me fourre une de ces boîtes sous le bras, avant de retourner au salon. Je peux pas avoir été partie plus de 3 minutes, mais pendant ce temps-là, Mémé et elle s'étaient endormies dans son fauteuil. Ouf. Trop de Chianti, je suppose. Moi, je suis allée faire la vaisselle dans la cuisine. Elle a dormi malgré tout chahu en ronflant comme un bébé. Bon, je voyais pas l'intérêt de la déranger et j'ai pris le parti de m'en aller. Je pouvais même pas lui écrire un mot d'adieu puisqu'elle était aveugle. Et je suis simplement partie. J'ai déposé le portefeuille de son petit-fils sur la table, ramassé l'appareil photo, et puis j'ai quitté l'appartement. Et voilà, l'histoire est finie. « Es-tu jamais retourné la voir ?» lui demandai-je. « Une fois. 3 ou 4 mois plus tard environ, je me sentais si moche d'avoir volé cet appareil que je m'en étais même pas encore servi en plus. Et je me suis enfin résolue à aller le rapporter, mais Ethel n'était plus là. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Quelqu'un d'autre s'était installé dans l'appartement et il a pas su me dire ce qu'elle était devenue. Elle est sans doute morte. Ouais, sans doute. » Ce qui veut dire qu'elle a passé avec toi son dernier Noël. Ah ouais. Je crois que j'y avais jamais pensé de cette façon. C'était une bonne action, Oggy. C'est bien ce que t'as fait pour elle. Ah, je lui ai menti, je l'ai volée. Je vois pas comment tu peux appeler ça une bonne action. Tu l'as rendue heureuse. Puis de toute façon, c'était un appareil volé. C'est pas comme si tu l'avais pris à son vrai propriétaire. Hein. Tout pour l'art, hein, Paul. Non, je dirais pas ça, mais du moins, t'en as fait bon usage. Et maintenant, toi, t'as ton compte de Noël, non ? Ouais, je pense bien. Je me tue un instant en observant le visage d'Oggy, qu'envahissait un sourire malicieux. Je n'ai aucune certitude, mais l'expression de ses yeux à ce moment-là me parut si mystérieuse, comme teintée par le reflet d'une joie secrète, que l'idée me frappa soudain qu'il avait tout inventé. À l'instant où j'allais lui demander s'il m'avait pas mené en bateau, je me rendis compte qu'il ne me le dirait jamais. Il avait réussi à me faire croire à son histoire. Et rien d'autre ne comptait. Du moment qu'une personne y croit, il n'existe pas d'histoire qui ne puisse être vraie.
Baratiner, c'est un vrai talent, Guy. Pour inventer une bonne histoire, il faut savoir appuyer sur les bons boutons. Et à mon avis, tu es passé maître.
Ce qui veut dire ?
Ce qui veut dire que c'est une bonne histoire.
Et merde ! Si tu ne partages pas tes secrets avec tes amis, quel genre d'ami es-tu ?
C'est exact. La vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue, pas vrai?
And I brought
J'aimerais tout simplement vous conseiller d'aller voir les deux sublimes films de Wayne Wong, Smoke et Brooklyn Boogie, avec Harvey Keitel et William Hurt. Vous pouvez aussi trouver sur YouTube cette très belle scène du conte de Noël de Smoke. En très long plan fixe, on y voit Harvey Keitel raconter cette histoire. À l'écran, juste son visage et la caméra qui s'approche. En un zoom imperceptible à mesure que nous entrons dans le sensible de l'histoire contée et qui, à fil d'émotions, dessine tous ses contours. À la fin du récit, nous sommes littéralement suspendus à ses lèvres, puisque la caméra ne filme plus que cela, une bouche qui raconte en très gros plan. C'est un très beau moment de raconter, dépouillé, essentiel, à nu. Voilà, sur le bout de la langue, c'est terminé pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur les ondes de Radiola. Merci à Pauline Lemaire Desmarais pour la production de cette émission, les conseils, la formation. Passez un très beau bout d'an